Se pensi che gli anni non andrà a finire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver dans les passages. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, l'émission des passages est devenue une drôle d'émission. Drôle au sens d'une émission curieuse. Curieuse de laisser advenir l'imprévisible. Et par les temps qui courent, ce n'est pas anodin. Alors par exemple, je pensais que Samantha serait avec nous pour approfondir les échanges que nous avons eus avec Maurice Bensoussan autour des soins psychiatriques. Mais il faut certainement du temps long pour Samantha. Animer une émission est un engagement. Alors, en attendant, j'ai eu envie de partager avec vous, auditrices et auditeurs, mes coups de cœur depuis le studio Gisèle Halimi avec, à la technique, Grégor. Alors, je disais drôle d'émission, parce que si on remonte à 2023, vous trouverez dans le menu de l'application Radio Esprit Occitanie, où il y a l'onglet « Nos programmes » qui vous permettent d'accéder à l'ensemble très riche et diversifié de toutes les émissions diffusées en podcast, vous trouverez l'émission « Les passages ». Elle est censée porter sur le thème de la parentalité. Si on clique dessus, s'ouvre la présentation du projet de cette émission rédigée en 2023. La fréquence annoncée était tous les vendredis. Effectivement, à cette époque, il m'avait été proposé de raconter par quel passage de rencontres et de lectures j'étais passé pour en arriver à imaginer que les Néandertaliens auraient pu construire la première maternité de l'humanité il y a 176 500 ans dans une grotte à Bruniquel. En ce temps-là, enfin je veux dire en avril 2023, pas au paléolithique moyen, hein, les émissions pouvaient être prévisibles toutes les semaines dans ce temps de 2023. Il y a tellement de choses à raconter dans les passages. Et puis, peut-être un peu comme Uxuralit, la jeune Inuit du livre « De pierre et d'os » de Bérangère Cournu, dont je vous avais parlé dans une des émissions, le temps qui passe métamorphose. Ça veut dire qu'il chamanise les expériences et on réalise que le pouvoir, c'est aussi quelque chose de silencieux. Ce n'est pas seulement le pouvoir de raconter. Parce qu'au bout d'un moment, le savoir-dire, le savoir-faire finit par s'effacer derrière la question « Mais qu'est-ce que c'est que l'être ? Qu'en est-il du savoir-être ?» Alors, si l'émission hebdomadaire n'est plus d'actualité, le thème de la parentalité, lui, c'est bien tous les jours qu'il nous interroge et qu'il nous concerne. D'abord parce qu'il s'adresse à nous-mêmes, à notre propre infantile, pas seulement celui de nos enfants, mais bien d'abord nos infantiles à nous aussi quand on est devenu soi-disant adulte. Face au parental, face à lui, la parentalité doit s'exercer sur nos propres besoins, nos envies, nos désirs. Envie qu'on ne peut pas toujours satisfaire, en tout cas pas toujours quand on le veut, ni où on le veut, et encore moins avec qui on veut. L'engagement dans la parentalité, ce n'est pas seulement du temps long, c'est du temps permanent. Du temps où alterne le temps de la présence avec de l'écoute partagée, et puis un autre temps, celui de l'absence et du silence de l'autre. Et c'est la présence intérieure de l'autre ou des autres, bien qu'absents, qui permet l'attente patiente de son retour, de leur retour. Et puis un jour, le silence auquel on est confronté, en attendant le retour de l'autre, eh bien, ça permet d'entendre la drôle de présence de l'étranger qui est à l'intérieur de soi. C'est une présence qu'on appelle altérité, avec une majuscule, une étrangeté. Pour nous aider en permanence à aller à la rencontre de cette altérité, je vous propose une lecture pour une nouvelle philosophie de l'existence à partir du livre de Félix Guattari qu'il a intitulé « Les trois écologies ». Il nous parle d'une écologie environnementale qui ne dit rien si on ne lui associe pas une écologie sociale et une écologie mentale. Ces trois écologies ensemble tissent ce qu'il appelle une écosophie, autrement dit, une philosophie écologique qui rassemble autour de ce tissage la nature, avec un N majuscule, notre communauté humaine et notre intimité singulière. Alors Guattari nous explique qu'au départ, Homo sapiens avait un langage informatif. Ça lui servait à transmettre le savoir appris par les expériences. Et puis petit à petit, au fil des millénaires, il a enrichi son langage en créant des mots qui lui ont servi à parler les émotions et les sentiments. Ces mots-là ne font pas partie de la langue du visible. C'est une langue du sensible, mais réservée peut-être à ceux qui peuvent la percevoir pour apprendre à la parler. Elle est invisible avec les yeux, mais c'est avec le cœur qu'on peut effectivement bien la sentir, comme le renard pouvait le dire au petit prince. La langue des émotions, c'est la langue d'impossible, d'improbable, d'une hypothèse, une interprétation, forcément souple, réversible, jamais stable. C'est pas une vérité. Si bien qu'on peut bavarder en permanence, palabrer, des heures, d'affilée, disserter sur le monde, sur les relations aux autres. D'ailleurs, on parle surtout des absents. Comme ça, au moins, ils ne viennent pas nous contredire. Le sapiens d'aujourd'hui n'a rien perdu de son amour du commérage. On le retrouve dans les réseaux sociaux, les informations en continu. Les propagateurs de rumeurs sont à l'origine d'un pouvoir. Les propagateurs de rumeurs sont à l'origine du pouvoir de la manipulation et de la croyance. Félix Guattari nous informe. Il décrit « La caractéristique véritablement unique de notre langage, et j'ajoute, surtout pour nous les Occidentaux, je referme la parenthèse, la caractéristique véritablement unique de notre langage, c'est la capacité de transmettre des informations sur des choses, je mets des guillemets à choses, qui n'existent pas, ou du moins, qui n'existent que dans l'imaginaire d'un individu. Le collectif ayant besoin d'appartenance y adhère par croyance. Mais Guattari nous dit, les chimpanzés aussi ont des instincts sociaux. À condition que le groupe ne soit pas trop grand, à la limite entre 20 et maximum 50 individus, il se peut que le groupe fonctionne avec les rumeurs et les commérages. Au début, les groupes humains n'étaient adaptés que pour de petites communautés d'intimes entre eux. Ça s'appelait la tribu, le clan. Les recherches sociologiques ont montré que la taille naturelle maximale d'un groupe lié par le commérage ne doit pas dépasser au maximum 150 individus. Ce groupe peut fonctionner sur la base de relations émotionnelles avec un minimum de discipline formelle, puisque les dominants sont les protecteurs des dominés. Le passage de ce seuil critique de 150 individus a largement été dépassé par les sapiens dès le néolithique, pour finalement fonder des cités, puis des empires. Ce dépassement réside probablement dans l'apparition de la fiction. Un grand nombre d'individus peuvent coopérer avec succès en croyant à des mythes communs, créant un imaginaire collectif. À bien y réfléchir, il en va ainsi des frontières artificielles attribuées à une nation, la valeur monétaire des choses, des services, les rapports à une loi, des lois, la justice humaine. Et Guattari nous dit « Les hommes d'affaires et les juristes modernes sont en fait de puissants sorciers. Entre eux et les chamans tribaux, la principale différence, c'est que leurs histoires sont encore plus étranges. Ils ont fabriqué des sociétés anonymes à responsabilité limitée, des SARL. Elles sont des entités juridiques sans corps. Au cours des derniers siècles, elles sont devenues les principaux acteurs de l'arène économique. Pour convaincre des millions de gens au bien fondé de ces structures fictives, il a suffi qu'elles produisent du profit et des biens matériels. Elles amènent des millions d'individus à travailler pour elles et à consommer, tout en croyant à un vivre mieux, puisque c'est ce que le groupe véhicule collectivement. En attendant, Guattari nous avertit. Les réseaux de parenté tendent à être réduits au minimum. La vie conjugale et la vie familiale se trouvent fréquemment ossifiées par une sorte de standardisation des comportements. L'altérité, la fameuse altérité, tend à perdre toute aspérité. Certains ne la ressentent même plus. La sensibilité avec les mondes extérieurs se trouve ainsi compromise dans une sorte de mouvement général d'implosion et d'infantilisation régressive, nous dit Guattari. Et ce n'est pas l'actualité qui le contredira. Alors en fait, mes coups de cœur sont des coups de colère et d'indignation, comme le demandait Stéphane Hessel. Indignez-vous, puis engagez-vous. Que des dominants s'autorisent à mépriser l'altérité et la parentalité au mépris de l'individu et des peuples ne peut laisser silencieux. Qui lancera la bombe ?
Ça y est, je crois que cette fois ça suffit. Tu me donnes froid comme c'est pas permis. Y'en a marre des pulls over. Ça y est, je crois que cette fois ça peut plus. J'ai beau mettre mon doigt, y'a plus le jus. Y'en a marre des pilons Wonder. Mais qui lancera la bombe?
Qui lancera la bombe?
Qui lancera la bombe?
Qui lancera la bombe?
En premier, c'est peut-être toi. Sûrement pas, mais qui lancera la bombe?
Qui lancera la bombe?
Qui lancera la bombe?
Qui lancera la bombe?
En premier, c'est peut-être moi. Moi. Ça y est, je crois que cette fois ça m'ennuie. C'est plus très sympa notre partie. Y'en a marre des pouces, des jokers. Ça y est, je crois que cette fois je faiblis.
Là pourvu que ça finisse assis.
Y'en a marre des courses, c'est plus l'heure, mais qui lancera la bombe?
Qui lancera la bombe?
Qui lancera la bombe? En premier, c'est peut-être toi. Sûrement pas, mais qui lancera la bombe?
Qui lancera la bombe?
Qui lancera la bombe? En premier, c'est peut-être moi. Pour une fois, je vais pas me faire un dessin. Je sais bien que je sais bien. Je sais bien que je sais.
Voilà, qui lancera la bombe? Qui lancera la bombe le premier? La parentalité, c'est du temps long. Il renvoie chacun de nous à son écologie mentale, et notre écologie mentale est en lien avec notre enfance. À notre dernière émission, nous avons écouté des morceaux du dernier album intitulé « Grand piano » de Mathieu Bougartz, auteur, compositeur, interprète. Il semble davantage connu à l'étranger plutôt qu'en France, eu égard à sa discrétion médiatique. À 16 ans, il rencontre Mathieu Chédid, avec qui il forme le groupe Tam Tam. Puis, il part voyager à travers le monde, surtout en Afrique, continent qu'il adore plus que les autres. Son premier succès avec Ondulé en 1995, puis son deuxième album studio, intitulé « J'en ai marre d'être deux », sorti en 1998 et qu'on écoute aujourd'hui, avait permis à tous les indécis de l'existence de se rencontrer et de se retrouver dans cet espace de passage, ce qui faisait pas mal de monde. Alors il vient de sortir « Grand piano » et il fête ses 30 ans de carrière. À 54 ans, ce neuvième album serait son meilleur disque, révèle-t-il dans la presse. Et il se confie sur l'importance de la parentalité. Il s'est senti longtemps agressé par la forte personnalité de son père, mais il reconnaît qu'il lui doit son exigence, ce goût pour l'effort et la discipline, pour lequel vous noterez que l'école n'a pas été pour grand-chose, puisqu'il l'a quittée sans bac ni regret. Son complexe face au père a été heureusement contrebalancé par l'absolue confiance maternelle. Il dit « Si je fais la musique que je fais, c'est grâce à elle, ma mère. Je vois bien que le côté naïf et fragile de mes chansons ne touche pas mon père, voire même le dérange. » De ce couple parental vite divorcé, il a forgé sa personnalité. Pouvoir imposer son être sans concession, dans les textes et les accords de sa musique et de ses chansons. Il paraît qu'on appelle ça la parole performative. La parole performative, d'après ce que j'en ai compris, c'est celle qui transmet du savoir vécu et donc de l'être vivant. Et il nous dit « Je ne trouve pas le pôle qui me convient. » Il ne trouve pas le pôle qui lui convient. Clignotant, il a fermé sa porte. C'est peut-être aussi bien. Il n'y a personne qui est venu.
C'est le jour de Vénus, avec ponctualité, 168 heures de plus que vendredi dernier, sans refus détendu, le regard dans le mur, je songe au petit vécu de mes nouvelles chaussures. De nouveau sur le dos, éveillé mais pas trop, à compter mes conquêtes, les attentions que je prête. Ça serait mal une escale, j'ai pas la tête au bal. Ça serait mal une escale, en couleur, même en pâle. Non, je trouve pas le pôle qui convient. Je trouve pas le pull qui me va bien. Je trouve pas le pôle qui convient. Je trouve pas le pull qui me va bien. Tu viens dans, me clignote que c'est bientôt demain. Si j'ai fermé la porte, c'est peut-être aussi bien. En habit affaibli, le regard dans la mire, à compter mes envies, il est tard, je m'étire. C'est sympa les auras, mais là y'en aura plus. En vertu de mon chat, y'a personne qui est venu. Ce serait un vrai régal d'oublier le tergal, de rêver les sandales en couleur, même en pâle. Non, je trouve pas le pôle qui convient. Je trouve pas le pull qui me va bien. Je trouve pas le pôle qui convient. Je trouve pas le pull qui me va bien. Je trouve pas le pôle qui convient. Je trouve pas le pull qui me va. Je trouve pas le pôle qui convient. Je trouve pas le pull. Je trouve pas le pôle.
Alors, pour Félix Guattari, seule une articulation entre les trois registres écologiques, celui de l'environnement, celui des réseaux sociaux et celui de la sensibilité humaine singulière, pourra nous protéger de tous les périls, ceux du racisme, du fanatisme religieux, de l'exploitation du travail, de l'oppression des femmes et des enfants. Ce n'est qu'à cette condition que peuvent être générés et régénérés les univers imaginaires, ceux qui ponctuent d'événements singuliers les histoires de vie, nos histoires de vie individuelles et nos histoires de vie collectives, où l'histoire peut à des moments s'écrire avec un grand H. Cette révolution ne devra donc pas concerner uniquement les rapports de force, ceux qui sont visibles à grande échelle, médiatisés. Elle concerne aussi les domaines moléculaires, les domaines de la sensibilité, les domaines de la neurologie, des synapses de l'intelligence, mais aussi des synapses du désir. La révolution doit devenir réévaluation de l'évolution de l'homo sapiens qui se prétend l'homme moderne. Toujours Guattari. Pour lui, les oppositions dualistes traditionnelles sont révolues, ce qui ne veut pas dire que les conflictualités ont disparu. Elles demeurent. Elles engagent des systèmes multipolaires qu'il faut dialectiser puisqu'il faut les conjuguer ensemble. On ne peut plus opposer l'objet avec son objectivité au sujet avec sa subjectivité. Il y a de la subjectivité dans l'objectivité, mais il y a aussi de l'objectivité dans la subjectivité. Et Guattari nous conseille d'ailleurs, plutôt que de sujet, qu'il conviendrait mieux de parler de différentes sensibilités. Un sujet de différentes sensibilités pour chacune de nos identités d'appartenance. Nous avons tous démarré nos identités en étant l'enfant de parents, des petits-enfants de grands-parents, qu'on les ait eus ou non, qu'on les ait connus ou non. L'identité au sein d'une fratrie, qu'on ait eu ou pas des frères, des sœurs, il y a des cousins, des cousines, puis à l'école, il y a des copains, il y a des copines. Et puis nous avons tous été à un moment l'élève du maître et de la maîtresse, et ainsi de suite. Chacune de ces identités d'appartenance, travaillant plus ou moins pour leur propre compte, pas toujours en harmonie avec les autres. Ainsi, notre intériorité s'instaure-t-elle au carrefour de multiples composantes qui voudraient être relativement autonomes les unes par rapport aux autres, et, le cas échéant, franchement discordantes et disharmoniques les unes avec les autres. Surtout d'ailleurs, quand le masculin et le féminin déguisés en maternelle et paternelle, règlent leur compte. Bien qu'il en ait marre d'être deux, Mathieu Bougartz, dialogue avec l'être deux. Voilà, Dieu, dialogue. On voit pourquoi le lapsus est important, car à ne pas vouloir conjuguer le masculin et le féminin, il y a ce risque d'être dans l'absolu. Alors qu'à vouloir accepter le dialogue de l'être deux, même si c'est peut-être plus difficile pour le masculin de s'adresser au féminin. Mathieu Bougartz chante « Ah, ce qu'elle est courte ma route pour l'emprunter avec toi. J'ai comme un doute sur les perfs qu'on peut faire, toi et moi. »
Pas si vite, hein. Pas si fort la lumière, et ouvre à peine les paupières. Pas si vite, hein. Pas si fort la lumière, j'ai comme un doute. J'ai comme un doute. Comme un doute sur la paire qu'on peut faire, toi et moi. Ah. Vite, la lumière. Éteins-la, je préfère. J'ai une couleur qui diffère.
Pas si vite. J'ai pas peur des couleurs. L'heure est si belle si tu trouves pas. L'heure est si belle. Mais les chapeaux pas belles, moi. Ta couleur me diffère. Et comme je sonne ta personne,
je sais.
Laisse-moi goûter ta pomme d'homme, un essai. Et comme je sonne ta personne,
je sais.
Laisse-moi goûter ta pomme d'homme, un essai. Donne un essai.
Ah, est-ce qu'elle est courte? Est-ce qu'elle est courte, ma route? L'emprunter avec toi. J'ai comme un doute. Comme un doute sur la paire qu'on peut faire, toi et moi. Ah. Et pas si vite. J'ai un truc qui est dans l'air, qui est dans moi, qui est sur moi.
Alors, il va nous falloir élever la philosophie, comme nous le conseille Guattari, au rang de l'écosophie. Il va falloir penser l'écosophie sociale, l'écosophie mentale, pour qu'elle vienne se tisser avec l'écologie environnementale. L'écologie sociale, c'est reconstruire l'ensemble des modalités de l'être ensemble, l'être en groupe, le vivre ensemble, et on voit bien que c'est dès l'école que ça se joue pour les enfants. L'écologie mentale, c'est réinventer le rapport au corps, le rapport au fantasme, au temps qui passe, à nos capacités à imaginer pour résoudre et faire avec les mystères, résoudre l'angoisse, accepter les mystères de la vie, les mystères de notre existence mortelle. Réinventer et régénérer les processus qui nous permettent de sublimer l'angoisse grâce à la créativité, comme les émissions où on traitait de « la musique sauvera le monde, la poésie sauvera le monde », même si ça ne nous sauve pas individuellement de nos souffrances, de notre difficulté à être. Il faut de l'imaginaire pour redonner à l'altérité toute son aspérité. Et dans l'altérité, il y a cette prise de conscience de la mort. Le parfum de l'existence sent bien sûr le parfum des fleurs, mais pas seulement. Le parfum de l'existence sent aussi ce qui est son poison, celui de l'éphémère, de la mort imprévisible. C'est pour ça que je trouvais intéressant de partager avec vous cette sensation de la drôle d'émission qu'est l'émission des passages, une émission curieuse de l'imprévisible, et faire que cet imprévisible devienne une présence, qu'on puisse s'y adapter. Voilà, je m'attendais à faire une émission avec Samantha. Samantha a besoin d'un temps long, et j'avais besoin de venir partager avec vous en attendant. Le poison de l'éphémère de notre existence mortelle, n'ayons pas peur, à petite dose, tous les jours, il nous permet de nous immuniser contre l'angoisse, de nous immuniser contre une dépression qui tombe dans un gouffre abyssal sans limite. Il nous permet de prendre la vie avec à la fois réjouissance mais aussi humilité à notre niveau chacun. Alors, on va se quitter avec cette chanson encore de Mathieu qui s'intitule « Sans ». Sans l'existence. Il nous dit « Hello, je viens tout juste pour dire un petit coucou. Ouvre-moi ta porte, même si ça t'embête. Sans, c'est un bouquet de rhododendrons, même avec du poison. »
Sans.
Alors merci à vous, auditrices et auditeurs, d'avoir pris ce temps de partager avec moi ce coup de colère par rapport à tout ce qui se passe. Avant que chacun de nous reparte dans ses passages, je vous invite le samedi 22 mars à venir partager à 11h à la médiathèque de Balma, dans le cadre du Salon du Livre, le Salon du Livre de Balma qui est cette année sur le thème du voyage, un drôle de passage en images qui nous conduira jusqu'au centre de l'humain. Voilà, je ne vous en dis pas plus, la curiosité aime les surprises. À très vite donc, j'espère, et même s'il faudra bien mourir un jour, bisogna morire, ne soyons pas trop pressés. À bientôt.
Inganni, se pensi che gli anni non andà a finire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. È un sogno la vita che parsi gradita, è breve gioire, bisogna morire, non val medicina. Non giova la china, non si può guarire, bisogna morire, bisogna morire.